Bonjour et bienvenue à tous à une nouvelle émission du Perforé. Et nous voilà avec trois invités, Manon, Emma et Thomas.
Salut!
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 Et déjà, ils vont commencer par dire leur animal préféré, chacun individuellement.
Bon. Je vais commencer. Hein. Alors, mon animal préféré, c'est la fourmi, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et c'est pas tellement son look, son apparence qui m'intéresse, mais plutôt tout ce qui se cache derrière, tout le fonctionnement des animaux. Mais même c'est le cas avec les autres types d'animaux sociaux, je trouve ça très intéressant.
Moi, j'aime bien les chats, parce que vraiment, bah, c'est tout doux et c'est mignon. Voilà.
Bah, je dirais les abeilles parce que j'aime pas les chats, j'ai peur des chiens. Enfin, j'aime pas les animaux en général, donc les abeilles, franchement, c'est sympa.
Bah, c'est cool, donc merci pour
et
ça.
Et toi, Maëlys ?
J'aime bien les cochons, je trouve ça mignon. Les cochons nains et tout, je trouve ça super mignon. Même les gros cochons, mais pas les manger, d'accord ? C'est bon le bacon aussi, mais...
J'aime bien les gros cochons, mais je pense que c'est bien que ça soit enregistré.
Non, bon, voilà, merci, hein. Donc, maintenant, on va parler de trois cas particuliers. Donc, tout d'abord, on va commencer avec les girafes.
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire à propos des girafes? Je pense que vous savez tous ce que c'est. Donc, l'animal qu'on trouve dans la... l'animal qu'on trouve dans la savane africaine, avec son long cou, qui lui permet de pouvoir manger les feuilles en hauteur. Alors, c'est un peu une bizarrerie de l'évolution, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Mais, notamment son cou... ça pose des petits soucis parce que si vous essayez de baisser votre tête jusqu'au niveau de vos pieds, vous allez très vite vous rendre compte que le sang va affluer à votre tête et votre cerveau ne sera plus irrigué correctement. Vous allez vous évanouir et crever si personne ne vous relève. Les girafes, c'est encore pire vu qu'elles, quand elles doivent boire, donc une flaque d'eau qui est au niveau de leurs pieds, elles doivent baisser un cou qui est immense et forcément, ça fait une quantité de sang gigantesque qui va affluer jusqu'à leur tête et normalement elles devraient s'évanouir. Alors on s'est rendu compte après plusieurs recherches qu'elles avaient un mécanisme de défense contre l'afflux sanguin qui était très intéressant et on s'est basé dessus pour réaliser des nouvelles combinaisons anti-G utilisées par l'armée de l'air et aussi dans le domaine du spatial au décollage des fusées et des navettes spatiales quand elles existaient à l'époque.
Merci pour ce petit témoignage. Alors maintenant, on va passer avec Emma qui va nous présenter donc des fourmis ou un projet concernant un peu les fourmis ou plutôt la vision des fourmis, me semble.
Oui. Donc on a voulu tester leur vision en faisant, en prenant les filtres de lumière colorés et en observant leur comportement et du coup, on s'est rendu compte que elles avaient un comportement particulier à certaines radiations, donc au bleu et au vert, et qu'elles n'avaient rien, pas de radiation, enfin, pas de réaction au rouge. Et puis après, on a voulu tester l'intensité pour voir ce que ça faisait, et puis elles sont mises en hivernage. En gros, pour les expériences, on a pris deux boîtes, on en a foutu une en noir, et... on a éclairé une seule avec le filtre et puis on a observé. Voilà, c'est particulier.
Et est-ce que tu penses que vos expériences étaient concluantes ou qu'elles ont bien abouti ? Est-ce que vos théories ont été, ou vos hypothèses ont été validées ou pas ?
Je pense que ça a été assez concluant, même si il restait plus beaucoup de fourmis à la fin. Hein. Oups. Et voilà.
Et c'était les fourmis de qui ?
Bon, alors avant qu'il y ait des ragots qui circulent, je vais reprendre le micro. Donc c'est moi qui ai fourni les fourmis. Et arrêtez de rire, il n'y a pas de blague dans ce que je raconte. Ouais, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les fourmis c'est mon animal préféré. Et j'ai quelques colonies chez moi, donc j'ai gentiment proposé d'en donner une à Emma. D'ailleurs, elle est revenue avec, on va dire... 10% de la colonie, en vie, hein, je parle. Après, cadavre, tout ça, il y a quand même une quantité. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, ne prêtez pas vos colonies de fourmis. Mais voilà. Bon, du coup, je te rends le micro, c'est bon, tu peux parler.
Mais merci pour ce témoignage. On va maintenant passer en espagnol à Manon, qui va nous présenter les abeilles.
Hola a todos, hoy estoy aquí para hablar de una pequeña bestia voladora de solo un centímetro. Sí, hablo bien de las abejas. Aunque a la mayoría de la gente no le gusta, quiero convencerte de que ya no mates a las abejas, porque te aseguro de que ya han sido maltratadas y matadas por varias razones. Y si debiera elegir entre guardar los hombres y las abejas, escogería las abejas porque, como os lo demostraré, son mucho más importantes para nosotros. Probablemente no lo sabías, pero en los últimos 20 años la producción de miel en Francia se ha dividido en dos. Esto se debe al síndrome de colapso de colonias, por fenómeno ya observado previamente en los Estados Unidos a partir de la década de 1990. Luego, en el país desde 1995, fue declarado hasta el 90% de las perdidas por algún apicultor. Aquí están las pocas cosas de las que voy a hablar. La importación de las reinas, las deficiencias dietéticas, la perturbación climática, las enfermedades y los insecticidas, las prácticas de la agricultura industrial. Primero, importación de reinas. El primer supuesto que representaje para este fenómeno, que es el menos comparado con el siguiente, es la importación masiva de la reina. Precisamente la reina es indispensable en la colmena. Fue frente a la reproducción insuficiente de la reina local del tipo de reina negra, por lo que los apicultores decidieron importarlo masivamente. Pero esta vez provienen de países como Italia o Grecia, que son auténticas fábricas de reinas. El problema, además de importar enfermedades desconocidas, es que no está adaptado a nuestro ecosistema francés. Es decir, que no están acostumbrados a nuestro clima, nuestras flores o nuestros periodos de floración. Estas reinas se encuentran entonces en momentos inadecuados como enero o febrero. Y otro problema para evitar que mueren las abejas nacidas en este periodo es que deben ser mantenidas artificialmente. Segundo, deficiencias dietéticas. El siguiente problema es en parte una consecuencia del anterior. Como lo dije antes, cada vez más apicultores tienen que alimentar a su enjambre como jarabe de azúcar en el bolso. Esto evita que la selección natural haga su trabajo y entonces no permite su adaptación al nuevo entorno. Pero esta sigue siendo una vergüenza para un animal normalmente autosuficiente. Las deficiencias también provienen principalmente de la eliminación sistemática de flores de campo por los agricultores. Con la llegada de la agricultura intensiva pudimos observar al mismo tiempo la aparición de herbicidas muy potentes que permitían la erradicación de flores silvestres como amapolas o arándanos. Entre la floración de la colza en primavera y la de los girasoles en finales de julio. Las abejas no tienen nada para alimentarse, por lo que se encuentran en la escasez de alimentos durante varios meses. Tercero, las prácticas de agricultura industrial. En 1990, los agricultores comenzaron a sospechar un nuevo insecticida que causaría pérdidas. Se llaman neonicotinoides. Estas moléculas desarrolladas en 1980 son neuroóxidos poderosos que actúan sobre el sistema nervioso. El problema es que, en comparación con la generación anterior, no solo se rocian sobre las plantas, sino que se cubren y regresan al polen y al néctar de las flores. Los efectos van desde la muerte hasta la afectación de habilidades cognitivas y otras. El año pasado, los neonicotinoides fueron prohibidos en Francia. Cuarto, enfermedades e insecticidas. Las abejas cuya vida se ve perturbada por el uso de insecticidas padecen a menudo patologías tales como los efectos psicológicos, que ocurren en varios niveles, especialmente en términos de malformación y desarrollo. Es decir, que las abejas no tienen el tiempo necesario para llegar a la edad adulta. También hay secuelas sobre el comportamiento de forrajeo, los efectos son visibles en la navegación y su aprendizaje. Podemos ver reducciones en la capacidad olfativa o incluso más serias tales impactos en el aprendizaje y la orientación espacial, es decir, que ellas no pueden reconocer la colmena o las flores. 500. La perturbación climática. Finalmente, hablaré del cambio climático, porque aunque somos más conscientes de ello, no perdona a ninguna especie, ni siquiera a las abejas. Ya sea que la temperatura aumentó varios eventos climáticos, es cierto que a largo plazo los eventos podrían afectar a las comunidades de polinizadores. La capacidad a las abejas para resistir enfermedades y parásitos podría verse influida por factores tales como su estado nutricional o su exposición al químico tóxico. En conclusión, para defender la causa de las abejas debemos actuar juntos. Es la supervivencia de los polinizadores e incluso diría que la supervivencia de la especie humana. Finalmente, espero que la próxima vez que veas una abeja zumbado a tu alrededor, recuerdes que no está tan mal y que realmente la necesitamos.
Okay, so now we're going to talk about bunnies, because I have a little bunny named Lily, who's very cute and adorable, and I like her very much. She doesn't do much, though, so it's kind of boring. But anyways, so things you may not know about bunnies is that they can't live off only carrots, because we see in cartoons that a lot of bunnies, or all bunnies or rabbits, only eat that. And my bunny does like carrots, but she also likes other things like root vegetables, like greens, like grass and clovers, or just different kinds of things. Anyways, some rabbits can actually be very big. They can get as big as a toddler. Some like the Flemish giant rabbit, and they're just huge, especially for a rabbit that we see as being somewhat small. My bunny happens to be a dwarf bunny, so she's actually pretty small. So yeah, that's that. Do you also know that baby rabbits are called kittens? Nope, not bunnies. I mean, that's what we would think, but they're called kits or kittens, like baby cats. And it turns out that female bunnies are also called doe, which is the name of a female deer. Also, they eat their own poop. That happens that after digesting their meal, they will poop, and then they will process it a second time. It's actually pretty healthy for them, so they have to do that. They don't really have a choice, and it's how they digest and redigest into their systems. And it's actually quite important. Now, the second time around, after they poop, they will not eat that type of poop, because there's two different types, so they know which one they're eating and which one they're not. Rabbits also groom themselves like cats do. They are very hygienic and like to be very clean and lick their fur and paws and take care of themselves. And they don't necessarily need to be bathed all the time, even though they do enjoy that. And I maybe bathe my bunny a few times a year, but I mean, only if she wants to. They can't vomit, though. Like a cat who coughs up a hairball, they will not do that and will only self-groom themselves. Their vision can cover nearly 360 degrees, which means it's very hard to sneak up on a rabbit because they will see you coming, and they know whenever there's danger ahead and can be very quick. They're also very, very good jumpers. They can jump very, very high and very far, and they're very, very quick. Also, their teeth never stop growing. Unlike people's or humans' teeth, they don't. It's kind of like our fingernails, which also don't ever stop growing, which is why we have to trim them every so often. Also, their ears help them stay cool. Well, I mean, they have multiple purposes. They can rotate a lot, which means they can detect any threats or predators, which means they can stay safe. And they can also cool the rabbit down on a hot day. So I hope you learned a lot of things about rabbits and bunnies, and thank you for listening.
Eh bien, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous aimez toujours autant les lapins, les fourmis, les girafes et les abeilles. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!